l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Un Portugal aux dimensions du monde.
Dear Secretary General Ban Ki-moon, it is an honor to follow your steps defending the same values that unite us. Thank you very much. It's time for the United Nations to do the same, to recognize its shortcomings and to reform the way it works.
Le vieux rêve des Portugais, c'est de mettre au monde de nouveaux mondes. Le poste auquel l'un d'eux, Antonio Guterres, qu'on vient d'entendre, accède ce 1er janvier, n'est pas exactement celui d'accoucheur d'un univers meilleur, c'est plus modestement le secrétariat général de l'ONU, une fonction impossible. Oui, mais à ce métier de chien, un Portugais peut apporter une valeur ajoutée. Un Portugais ne se voit pas en effet comme l'habitant d'un Finistère de l'Europe qui ne s'occuperait que de lui-même. Des mers et des océans, il a fait sa destinée. Le dictateur Salazar, qui en 40 ans de pouvoir finit par s'identifier aux colonies que le Portugal conservait alors en Afrique, répétait « Nous ne sommes pas un petit pays ». S'il répugnait à en franchir les frontières, il parlait couramment trois langues. Antonio Guterres en maîtrise davantage encore. D'ailleurs, même s'il ne parle que la sienne propre, un Portugais se trouve au milieu d'une vaste communauté linguistique qui compterait 250 millions de locuteurs et qui va de Rio à Timor, de Luanda à Mogadiscio. Mais le Portugal n'a pas les moyens d'y imposer sa volonté. Le Brésil est versatile, l'Angola ou le Mozambique sont volontiers batailleurs. La lusophonie ne parvient pas à devenir un espace politique ni même économique. Elle a cependant déjà donné à Antonio Guterres, qui fut 6 ans Premier ministre à Lisbonne, un aperçu de ce que sera pour lui le labyrinthe de l'ONU.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Yves Léonard, bonjour.
Bonjour.
Grand lusophile devant l'éternel. On va rendre hommage à votre éditeur habituel. Enfin, vous travaillez aussi pour d'autres maisons, ce sont les éditions Chandaigne. Il y a une accueillante librairie, place de l'Estrapade, derrière le Panthéon à Paris. Et Chandaigne, c'est un libraire-éditeur.
Oui, c'est quelqu'un qui, depuis maintenant plus de 20 ans, fait un travail tout à fait remarquable. Il explore, il a découvert et maintenant, au fil des années, il s'est imposé comme un éditeur référence sur ces aires lusophones. Donc, c'est un plaisir de travailler avec cet éditeur qui produit du beau travail éditorial.
Et vous publiez chez ce libraire qui tient la librairie portugaise et brésilienne de Paris et qui est éditeur en même temps, une histoire du Portugal contemporain fort bien, fort élégamment éditée. Alors, ceci dit, puisqu'on est là pour complimenter le Portugal, il s'est toujours vu comme un pays exceptionnel parce qu'il était le premier dans les découvertes, enfin ce qu'on appelle encore dans le vocabulaire occidental les découvertes. Il faudrait y voir de plus près, les Portugais avaient été précédés par beaucoup de locaux, mais peu importe.
Oui, mais ils ont joué un rôle majeur dans la découverte des routes maritimes pour aller vers l'Inde, qui était un peu l'objectif. Nous sommes dans la seconde moitié du 15e siècle, et le premier qui va réussir ce passage tout à fait difficile, dangereux, le cap des tempêtes, le cap de Bonne-Espérance, et ensuite remonter vers les Indes, c'est Vasco de Gama, qui passe à la postérité comme celui qui a découvert la route maritime des Indes et qui arrive en 1498 en Inde.
Régulièrement, le Portugal rappelle ce passé glorieux. Il tient à dire qu'il est projeté vers l'extérieur. Même l'immobile Salazar, il tenait beaucoup à ce grand légendaire portugais. Le premier son qu'on va entendre, qui va précéder un écho de l'exposition universelle de 1998, date de 1940. Une exposition extrêmement intéressante qui s'est tenue à Belém, à côté de Lisbonne.
Oui, sur les quais du Tage, à Belém. L'idée de Salazar, c'était de commémorer l'histoire du pays, les centenaires, comme on disait à l'époque, le 8e centenaire de la création du Royaume du Portugal, 1940, et puis la restauration de l'indépendance face à la Castille, face à l'Espagne, en 1640. Et autour de ça, eh bien, il avait construit une exposition tout à fait étonnante, à dominante coloniale, avec toute une section coloniale qui était là pour dire que le Portugal était grand et rayonnant grâce à sa présence outre-mer.
Il se trouve que se réfugiait au Portugal cette année-là parce qu'il était neutre et qu'il était un point de sortie possible de l'Europe vers les continents encore libres. Beaucoup de réfugiés, dont Saint-Exupéry, qui a fait une description extraordinaire de l'Expo de 40.
Oui, Saint-Exupéry s'est retrouvé à la fin du mois de novembre 1940 à Lisbonne. Et là, il a découvert, il a fait la visite de cette exposition tout à fait étonnante qui fermait ses portes quelques jours plus tard. Et il a été tellement impressionné qu'il en a retiré un texte absolument superbe, publié à New York 3 ans plus tard, Lettre à un otage, qui ouvre donc Lettre à un otage, où il dit, voilà, le Portugal se retranchait derrière ses sentinelles de pierre. Allait-on le mettre à mal, à l'abri, protégé par son passé glorieux? Il sentait les bombardiers qui allaient survoler l'Europe, eh bien, Saint-Exupéry avait vu là quelque chose d'absolument étonnant, insolite. Dans une Europe en guerre, eh bien, le Portugal était, lui, protégé par son passé glorieux.
Alors, ils sont les voiles 40 puis 98.
Solennemente inaugurada por Sua Excelência o Chefe do Estado, Senhor Presidente do Conselho e outras individualidades. E aquele autêntico monumento ao bom gosto, que prova que os operários portugueses atuais sabem repetir as obras-primas do passado, ficou exposta aos olhos admirados de todos nós, honrando os nossos marinheiros e os nossos artistas.
Face des 60 hectares de bâtiments ultra-contemporains, elle est là. La réplique de la Bonne Espérance, l'une des caravelles de la route des Indes. À ses côtés, le Fernando II, qui lui cinglait encore vers Bombay au 19e siècle. Deux pièces maîtresses de cette exposition entièrement dédiée aux océans. Le Portugal a construit lui-même tous les bâtiments qui vont abriter 140 pays. Tous rivalisent d'ingéniosité pour présenter leur savoir-faire. Mais le plus beau est incontestablement l'Océanorium, le plus grand aquarium d'Europe, où les requins croisent des bancs de poissons entiers, comme dans la nature.
Soir 3, 98, une exposition universelle, inaugurée par le président de la République d'alors, Sampaio, et le premier ministre socialiste d'ailleurs, qui s'appelait...
Antonio Guterres.
Le nouveau
secrétaire
général de l'ONU, qui prend ses fonctions le 1er janvier. Bon. L'histoire coloniale du Brésil, du Portugal, qu'on va raconter à grands traits, elle est marquée par des singularités. Bon, la période d'apogée est en fait très brève. Les Hollandais vont supplanter le commerce portugais. Les Espagnols s'avèrent plus puissants que les Portugais. Et puis alors, il y a cet événement étonnant, je prononçais le mot de Brésil. Au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, les Portugais ont opéré un décentrement vers leur empire colonial qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Quand Napoléon envahissait le royaume de Savoie, le roi allait en Sardaigne. Le royaume des deux Siciles, le roi allait de Naples en Sicile. Et le roi du Portugal, lui, quand il est menacé d'invasion par Napoléon?
Eh bien, il traverse l'Atlantique et il va à Rio avec... une partie de la cour qui se transplante à Rio, parce qu'effectivement, il y a eu les invasions napoléoniennes, le général Junot est arrivé à Lisbonne, et bien la famille royale part au Brésil, non pas en exil, mais parce que le Brésil est sous la souveraineté portugaise. Et cette course donc va durer plusieurs années, puisque la famille royale s'y installe en 1808, et le roi ne reviendra qu'à la fin des années 1810, en 1820. Et son fils aîné, eh bien, restera lui au Brésil et sera à l'origine de l'indépendance.
Et le roi, il n'était pas si content que ça de quitter le Brésil après l'avoir découvert en 1807-1808. Alors qu'est-ce qu'il a découvert? C'était encore la même langue? Il y avait des différences?
Alors,
un même pays qui pratique la même langue peut être séparé en deux par la langue.
Séparé par la langue et par un océan aussi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le Portugal, la famille royale portugaise, le Brésil, c'était vraiment le joyau de la couronne. C'est-à-dire que tout au long du XVIIIe siècle, une grande partie du XVIIIe siècle, la richesse du Portugal venait du Brésil, grâce au cycle de l'or, notamment, et des minerais précieux qui avaient été trouvés au Brésil. Ça dure jusqu'au début, au milieu des années 1750. Il y a le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Va suivre une période un peu de déclin, mais dans la réalité, surtout dans l'imaginaire, le Brésil est véritablement le point d'ancrage, le point d'appui, et d'où le Portugal tire sa force. Et donc pour la famille royale, arriver à Rio, c'est quelque part dire que la capitale du Portugal peut être Rio. Et c'est ce que, de fait, Rio va être pendant quelques années. Capitale de cet empire, mais capitale aussi du Portugal, car sur le continent ne reste plus que une partie de la noblesse et surtout un proconsulat britannique qui est là pour protéger le blocus continental et éviter que les troupes napoléoniennes puissent s'implanter et surtout permettre aux Britanniques de s'implanter en contrepartie sur les côtes brésiliennes, dans les ports brésiliens. Le traité de 1810 est fait pour ça.
Un extrait du feuilleton télé que Raoul Ruiz a consacré à cette époque et qui s'intitule « Les mystères de Lisbonne ».
Le roi Jean VI a fait construire un théâtre, maintenant très fréquenté, non point par ferveur pour les spectacles, dont tout le monde se désintéresse, mais par amour pour la musique. Oui, ici la musique est reine, et les jeunes filles apprennent le piano, mais chacun conserve une prédilection pour la guitare.
J'aimerais emmener ces artistes du théâtre São Carlos. Il faut que le Brésil voie ces spectacles sublimes.
Le deuxième acte est encore meilleur.
C'est possible, mais hélas, je ne puis rester.
Vous parliez de tous les interprètes?
Oui. Et le chœur aussi, tout le monde.
Cela fait beaucoup de monde.
Le Brésil le mérite.
Io son padre e la mia figlia, questa donna è il mio rossor, questa donna è il mio rossor, e ta creta, udir non voglio. Io son padre e la mia figlia, questa donna è il mio rossor. Vos voler mi ogni pietà, so per peggio di quest'altare, qual vergogna e disonor, qual vergogna.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Qui aujourd'hui, en contrepoint de l'élection d'un Portugais à la tête de l'ONU, parle en compagnie d'Yves Léonard du Portugal aux dimensions du monde. On entendait un extrait de la Spinalba. Francisco Antonio de Almeida a inventé l'opéra portugais au XVIIIe siècle. Il a dû se transférer au Brésil comme la cour. Et puis vous disiez, Yves Léonard, que l'arrivée des Brésiliens, des Portugais de Lisbonne, ne faisons pas de confusion, va accélérer l'indépendance du Brésil. Mais mélancolique peut-être, mais jamais désespéré, n'est-ce pas? Les Portugais décident de faire de leur Afrique un autre Brésil, parce qu'ils ont une Afrique.
Oui, alors c'est le troisième empire, puisque le premier était en Asie, autour de l'Inde, Goa, le deuxième au Brésil. Le troisième empire va être l'empire africain, parce qu'il faut trouver un peu un palliatif, un substitut à la perte du Brésil qui est très traumatisante. Dans les années 1820, c'est le joyau de la couronne qui disparaît. Et les élites politiques, administratives, intellectuelles vont s'emparer du rêve africain dans la seconde moitié du 19e siècle, au point d'imaginer pouvoir réaliser une liaison Est-Ouest qui va prendre les couleurs d'une carte rose. On est dans les années 1880, c'est le congrès de Berlin. Et à ce moment-là, les Portugais sont convaincus qu'ils vont pouvoir réunir l'Angola au Mozambique.
Alors, parce que le problème de la colonisation, si le mot est exact, des Portugais, c'est qu'elle se fait toujours, faute de moyens importants, en archipel. C'était le cas au Brésil, la présence portugaise, c'était un archipel. Et en Afrique, c'est un archipel aussi.
Oui.
Il y a l'Angola, il y a le Mozambique, et puis des confettis.
Le problème historique, effectivement, c'est que les Portugais ont été présents sur les parties littorales, sur les côtes. On fait des padrões, on posait des pierres, des jalons, mais ont eu toutes les peines du monde, notamment en Afrique, à explorer l'intérieur des terres pour plein de raisons, financières, démographiques. Il y a eu des vagues d'exploration. Mais à ce moment-là, ils sont rentrés aussi en opposition, en contradiction avec des ambitions d'autres puissances, et notamment, à la fin des années 1880, les ambitions britanniques dans cette partie de l'Afrique australe, où les Britanniques voulaient réaliser la fameuse liaison nord-sud, le Cap Le Caire. Et évidemment, les Portugais, qui étaient l'allié traditionnel des Britanniques, se sont retrouvés coincés et n'ont pas pu réaliser cette liaison et qu'ils avaient eu grand-peine à faire puisque les vagues d'exploration étaient financées avec des moyens de fortune et avec des explorateurs qui étaient extrêmement audacieux, extrêmement courageux, mais dénués de véritablement de moyens.
Dans votre histoire du Portugal contemporain, qui vient de paraître chez Chandaigne, vous faites une grande place à Salazar qui, d'une manière ou d'une autre, discrètement en général, a régné pendant près d'une quarantaine d'années. Vous le peignez comme un ministre des Finances extrêmement scrupuleux et qui veut faire des économies au Portugal. Quand, au milieu des années 20, il est aux affaires, dans un premier temps, il doit penser que les colonies, c'est extrêmement coûteux. Alors qu'est-ce qui le convertit au rêve colonial, lui, le comptable scrupuleux ?
Le comptable scrupuleux est venu de l'intérieur des terres, hein, qui n'a pas, dans sa culture personnelle, une espèce d'appétence, d'attirance pour l'océan, pour la mer. Ce qui va le convaincre, parce qu'il est très réticent au début, effectivement ça coûte cher, c'est il prend la mesure de l'importance, le caractère syncrétique, rassembleur de cette question coloniale. La question coloniale est quelque chose qui peut réunir, rassembler les élites. Et il a besoin, pour sa conquête du pouvoir, de s'assurer le soutien, lui qui est privé d'un grand parti ou d'un passé militaire prestigieux, il a besoin de soutien. Et la question coloniale rassemble les élites à la fin des années 1920. C'est une manière aussi pour lui de s'attirer la bienveillance, ou du moins l'indifférence polie, des militaires. Parce que les militaires l'ont mis au pouvoir, d'une certaine manière, mais ils sont toujours très sourcilleux. Ils ont pu imaginer un instant qu'ils allaient, une fois les équilibres budgétaires rétablis, eh bien, se débarrasser de lui ou envisager une autre personne. Donc les militaires sont toujours très sensibles à cette geste coloniale qui leur permet de se couvrir entre guillemets de gloire et surtout pour Salazar d'aller voir ailleurs, de regarder ailleurs. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il va faire l'acte colonial en 1930, qui est la pierre angulaire de son système colonial.
Mais il utilise encore le mot « colonie » quand les années passent, parce que c'est un immobile qui s'adapte à des conjonctures très différentes. Il ne va plus parler d'empire dans les années 1950, ni de
voilà.
Colonie.
L'apogée de cette mystique impériale, c'est l'exposition de 1940, dont on a parlé tout à l'heure. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les vagues de décolonisation qui commencent à se réaliser pour les empires européens, l'esprit de Bandung ensuite au milieu des années 1950, eh bien Salazar prend la mesure d'adapter son discours. Il l'adapte de deux manières, juridiquement, en changeant la constitution 1951, en parlant plus d'empire et de colonie, mais de province d'outre-mer, et puis en prenant à son compte le discours d'un Brésilien, d'un sociologue brésilien, Gilberto Freire, qui a développé une théorie tout à fait originale qui s'appelle le lusotropicalisme et qui consiste à dire finalement que les Portugais ont colonisé de manière très très originale par un brassage, un métissage, une miscigenation.
C'est-à-dire que là, on est passé de la mystique tropicale aux amours tropicales.
En quelque sorte.
Les Portugais, selon le lusotropicalisme, voilà. Ont des relations sexuelles, il faut être clair, même si le docteur Salazar était prude, beaucoup plus facile avec les habitants des colonies.
C'est ce que dit Gilberto Freire, ça ne correspond pas vraiment à la réalité, mais c'est un discours qui sonne bien, qui résonne bien aux oreilles du régime salazariste, à tel point qu'à la fin des années 1950, c'est devenu une espèce de vulgate, de discours dominant qui s'impose et qui va servir de pierre angulaire aux commémorations en 1960 de cinquième centenaire de la mort de l'infant Henri, celui qui était à l'origine des découvertes.
Le navigateur dont Salazar se présentait comme le digne successeur, dites-vous. Oui, mais après 60, il y a 61, Anus Horribilus, des opposants prennent un bateau portugais en otage, imagine, ils n'y parviennent pas de le jeter sur le port de Luanda, en Angola, pour prendre le pouvoir. Et la même année, les Indiens chassent de Goa, témoignage du premier empire, les Portugais. Et puis, les mouvements d'indépendance commencent, qu'observe ici Jean Angot pour 5 colonnes à la une.
Ces terribles images ont à peine 2 ans. C'était le 15 mars 1961. Une Saint-Barthélemy horrible, inattendue. Le massacre dans le nord du pays de plus de 2000 blancs et 10 000 noirs, surpris par une brusque flambée de nationalisme, partie des frontières du Congo belge. La riposte portugaise fut impitoyable. 60 000 hommes pourchassèrent dans des conditions très difficiles, en pleine saison des pluies, un ennemi en petit nombre, évoluant dans cette forêt qui lui est familière. Aujourd'hui, le 20e seulement de l'Angola, en bordure du Congo ex-belge, demeure zone d'insécurité. Et les Portugais, encore impressionnés par ce qu'ils considèrent comme une agression extérieure, essaient, fût-ce par des chansons, de réanimer le patriotisme des Blancs et des Noirs.
Cette chanson, cette marche a été faite après les événements du Nord pour enthousiasmer le peuple et lui donner plus de patriotisme. Et nous la chantons avec enthousiasme parce que tous les habitants de cette province sont portugais. Les Blancs, les Européens, les Noirs, tous vivent les mêmes idées, les mêmes motifs et tous veulent être des Portugais.
Bien, Salazar va s'user aux guerres d'indépendance et puis après la révolution des œillets qui a renversé son successeur, l'indépendance est accordée au Mozambique, à l'Angola, à la Guinée-Bissau, à Sao Tomé et Principe, et puis j'ai oublié
le
Cap Vert, bien évidemment. Mais ça fait rien, mélancolique et jamais désespéré, les Portugais se tournent vers l'Europe.
Oui, à l'époque, on disait même « l'Empire est mort, vive l'Europe ». C'est vrai que ce choix de l'Europe, les autorités, les gouvernements portugais, Mário Soares en tête, puisqu'il est, il est Premier ministre en 1976, va faire campagne autour du thème « l'Europe avec nous » pour dire que l'Europe est une nécessité, d'abord pour arrimer la jeune démocratie, pour la consolider, ensuite pour trouver aussi des moyens financiers et économiques pour aider le Portugal dans cette période difficile, et puis aussi comme compensation, perte très compliquée au terme de 13 années de conflit de cet empire colonial qui a marqué la longue histoire du Portugal. Pour ces trois raisons, eh bien, l'Europe s'impose.
Et c'est en même temps, par exemple dans la tête fertile de Soares, mais pas seulement, que se développe l'idée de la lusophonie, mais comme c'est difficile de faire un accord politique avec des pays à qui on a accordé l'indépendance tout dernièrement, qui sont d'ailleurs souvent en Afrique dans la guerre civile, comme c'est difficile de tenir tête au Brésil, la lusophonie, c'est très différent de la francophonie de ce point de vue. Ça passe par une observation de l'état de la langue, des accords sur la langue, par la culture.
Alors, ça passe par la culture, et quand on regarde la séquence chronologique, ça s'étage donc 1976, le début de la démarche européenne, 1986, l'adhésion à l'Europe, et c'est en même temps que les Portugais vont essayer de construire quelque chose autour de l'idée de la langue, de la défense de la langue, et en partant aussi de l'idée toujours que, même si la décolonisation a été conflictuelle, compliquée au terme de guerre coloniale, il y a quelque chose d'inaltérable qui s'est construit avec l'Afrique. Les liens n'ont jamais été complètement coupés, si bien que ça va permettre assez rapidement, c'était l'idée de construire un pont entre l'Europe et l'Afrique, les Portugais vont s'emparer de cette idée pour construire, non seulement vis-à-vis du Brésil, mais aussi vis-à-vis de l'Afrique lusophone, quelque chose d'original qui va prendre corps en 1996 avec la communauté des pays langues portugaises. Et c'est vrai que c'est le cœur, c'est la langue. La langue, c'est ce qui réunit. Ma patrie est la langue portugaise, disait Fernando Pessoa, il a dit tellement de choses. Mais c'est une belle phrase qui dit l'essentiel. C'est vrai que cette langue portugaise permet au Portugal, c'est un amplificateur pour le Portugal.
Mais enfin, il serait surpris, Pessoa, de voir l'usage que la télévision peut faire de la langue portugaise, ou même dans la littérature écrite, de voir les mozambicisme qui marque la spécificité du portugais du Mozambique. Je suis sûr que vous n'êtes pas un client des telenovelas.
Ah, je suis pas un grand spécialiste, c'est vrai.
Mio amor, quero un cupinho d'acqua con açúcar.
Oh, meu Deus, pra quê? Pra eu afogar a minha mágoa, é? Olha, Samuel, eu nunca pensei que tu e a Amélie me atraiçoassem desta maneira, percebes?
Mãe, por favor.
É cinza do meu coração desfeito.
Eu e a Amélie nunca tínhamos, nós não fizemos nenhuma encomenda à Imperatriz.
É verdade, nós é que supusemos que fosse assim.
Pois, a mãe é que me mandou fazer isto tudo, não é?
Eu? Então foi o mentiroso do teu irmão que me induziu em erro.
Eu e a Amélie nunca falámos de pedir os serviços à Imperatriz.
Então, e de onde é que aparecem estes bularecos todos? Quem é que os fez?
J'ai rencontré un Portugais.
Alors Mara sort avec un Portugais.
Du Portugal à l'Angola.
Eh ouais.
De Lisbonne à Luanda.
Je reste ici à tes côtés, pour toujours.
Un casting exceptionnel. Une intrigue captivante.
Toi et moi, c'est impossible.
Impossible tant que ce n'est pas arrivé.
Enfin, Yves Léonard, Mara, une femme unique, Luis Miguel, ingénieur, frappé par la crise de 2008 au Portugal, part en Afrique et il rencontre Mara, une jeune infirmière, angolaise. Ça vous rappelle rien ?
Il y avait un sujet, un film qui avait été réalisé en 1940, au moment de l'exposition du monde portugais, qui s'appelait Feitiço do Império, la magie de l'Empire, qui racontait l'histoire d'un jeune luso-descendant vivant aux États-Unis qui allait faire un voyage un peu initiatique au Portugal. Il avait découvert le vrai Portugal outre-mer, dans les colonies en Angola et au Mozambique, et tombé amoureux d'une infirmière sur place, comme quoi...
Tiens, voyez. Mais quels sont les rapports? Parlons d'abord de l'Afrique, des pays d'Afrique portugaise, d'ex-Afrique portugaise avec le Portugal. On peut prendre le moment d'ailleurs de cette crise de 2008 avec des suites terribles pour le Portugal, le gouvernement qui pratique l'austérité, qui dit d'ailleurs aux Portugais « mais allez-y, partez !»
Voilà, il y a eu effectivement au début des années 2010, avec les mesures d'austérité qui ont été appliquées, la potion qui a été infligée via la Troïka, et bien les autorités portugaises, le Premier ministre de l'époque a dit, voilà, jeune Portugais, et bien votre avenir quelque part est en Angola, est ailleurs. Et beaucoup de jeunes Portugais diplômés, formés, et souvent formés grâce aux fonds européens, les bourses Erasmus, etc., sont partis s'installer, notamment en Angola, parce qu'à l'époque, l'économie angolaise était avec des forts taux de croissance. Donc ça a été une nouvelle fois une sorte de rêve, d'Eldorado, de mirage en quelque sorte, qui a saisi sous la contrainte les jeunes Portugais.
La queue au consulat d'Angola à Lisbonne, ce qui devait peut-être faire rire dans leur barbe les responsables angolais. Et du côté du Brésil, parce qu'on dit à São Paulo, il y a plus de locuteurs du portugais qu'il y en a dans tout le Portugal. Et où est le musée de la langue portugaise? Parce qu'il y a un musée de la langue portugaise.
Oui, alors il est au Brésil, et l'idée... pour les Portugais, il y a évidemment une rivalité, une concurrence très forte, puisque quelle est la pureté de la langue, quelles sont les origines véritables. Il y a eu des querelles incessantes ces dernières décennies sur des accords orthographiques entre les deux pays, et c'est finalement plutôt une norme à tonalité brésilienne qui a pris le pas sur la pureté originelle portugaise. Et si on raccroche à ça la question aussi de la pratique du portugais dans l'Afrique, en Afrique, parce qu'on parle en fait de pays africains, de langue officielle portugaise, mais il y a relativement peu de locuteurs. Ce sont des langues administratives, des langues politiques, des langues officielles, mais une partie de la population ne la pratique pas en Afrique.
Merci à vous, Yves Léonard, en honneur de l'accession au secrétariat général de l'ONU d'un ancien premier ministre portugais. Vous nous avez parlé du Portugal dans le monde, et je rappelle que chez Chandaigne, vous avez publié une histoire du Portugal contemporain. Cette émission a été préparée par Franck Olivar, Ilinka Negulesco, avec à la technique Juliette Del Pérou, et à la réalisation Valérie Aestara.